d'Iran. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, méditons ensemble sur le verset 261 de la sainte sourate Al-Baqara. Notre frère Borumand vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset prône la largesse qui est bien récompensée par Dieu.
بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم.
Il est de ceux qui font largesse de leurs biens dans le sentier de Dieu, comme d'un grain d'où naissent sept épis à 100 grains l'épi, car Dieu multiplie en faveur de qui il veut. Dieu est immense, il sait.
Thank you. Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce mercredi 23 août 2023. Nous aurons le plaisir de vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique consacré aux évolutions économiques et nucléaires iraniennes. Les demandes pour acheter de l'eau lourde se multiplient. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. À la une de ce journal, l'Afrique du Sud, le sommet des BRICS s'ouvre à Johannesburg. L'Iran a su transformer les sanctions en opportunités de progrès, se félicite le président Raïsi lors d'une rencontre avec le très haut parlementaire algérien à Téhéran. Et puis, sixième jour des attaques sur Moscou et sa région, trois drones abattus ont déclaré les sources russes. C'étaient les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le 15e sommet annuel des BRICS, un bloc regroupant cinq grandes économies émergentes, a débuté dans la ville sud-africaine de Johannesburg. Les dirigeants des États membres des BRICS ont appelé à l'utilisation des monnaies locales pour faciliter le commerce et les investissements. Ils ont également critiqué les systèmes de paiement mondiaux existants, car ils sont manipulés à des fins politiques. Les dirigeants du bloc ont appelé à des réformes fondamentales et à une plus grande coopération pour faire progresser la prospérité pour tous. Ils ont également appelé à l'expansion des BRICS. Le président chinois et brésilien, le premier ministre indien, le ministre russe des Affaires étrangères, ainsi que les dirigeants et représentants d'une cinquantaine d'autres pays y sont en présence. S'adressant virtuellement au sommet, le président russe Vladimir Poutine a déclaré que l'influence du groupe se renforçait. Parallèlement, le président chinois a appelé à une coopération plus approfondie pour faire progresser la croissance économique. Il a également appelé à une coopération politique et sécuritaire pour promouvoir la paix. Les BRICS devraient envisager d'accorder de nouvelles adhésions au cours de leur sommet de trois jours. Une quarantaine de pays ont exprimé leur intérêt à y adhérer, parmi eux l'Iran qui a demandé son adhésion l'année dernière. Le président iranien Ebrahim Raisi a également été invité à Johannesburg pour participer au sommet. Le président iranien a déclaré que les puissances hégémoniques dirigées par les États-Unis et le régime israélien s'opposent à l'expansion des liens entre nations indépendantes. Ebrahim Raisi a rencontré à Téhéran le président du Parlement algérien Ibrahim Bourali. Il a déclaré que l'Iran et l'Algérie peuvent renforcer leur coopération constructive au profit de leur propre nation et de la communauté musulmane sur la base de vues communes sur les questions régionales et internationales. Ebrahim Raisi a ajouté que l'Iran a réussi à transformer les sanctions et les pressions étrangères en opportunités et qu'il a su enregistrer de progrès significatifs. Le très haut parlementaire algérien a pour sa part affirmé que son pays était disposé à améliorer ses liens économiques avec l'Iran. Il a également transmis les chaleureuses salutations du président algérien Abdelmadjid Tebboune à l'Ayatollah Raisi et a déclaré « L'Iran est une puissance centrale qui s'appuie sur une histoire, civilisation et culture ancienne, ce qui le rend plus puissant et conduit au renforcement de l'Oumma islamique ». Le président Raisi a participé à une cérémonie de dévoilement de grande avancée extraordinaire, pour reprendre les mots du ministre iranien de la Défense, baptisé Mohajer 10. Un certain nombre de hauts commandants militaires et gradés étaient également présents à la cérémonie. Le drone Mohajer 10 est capable de rester en vol pendant 24 heures à une altitude de 7000 mètres et une portée opérationnelle de 2000 km. L'avion a une vitesse maximale de 210 km par heure. Le véhicule aérien sans pilote est également équipé de systèmes de guerre électronique et de renseignement. Ces dernières années, la République islamique a réalisé des progrès majeurs dans la fabrication d'équipements militaires destinés à renforcer l'autodéfense. Un ressortissant iranien emprisonné illégalement en Suède depuis 2019 a déploré son calvaire dans la prison du pays européen. L'Iranien Hamid Nouri a déclaré à sa famille lors d'un appel téléphonique qu'il était détenu à l'isolement depuis près de 4 ans. Nouri a déclaré que les autorités pénitentiaires le déshabillaient chaque semaine pour le fouiller au corps. Il s'est également plaint du fait qu'il a rarement été autorisé à prendre contact avec sa famille. En novembre 2019, Nouri a été arrêté à son arrivée à l'aéroport de Stockholm. Les procureurs suédois l'accusent d'être impliqué dans l'exécution de membres de l'organisation terroriste anti-iranienne Mujahideen-e Khalq ou MK. Il a rejeté les accusations portées par ce groupe terroriste contre lui, les qualifiant de politiquement motivés. Le chef du bureau politique du Hamas a déclaré qu'il n'y avait ni solution diplomatique ni sécuritaire en Cisjordanie occupée après l'échec du soi-disant processus de paix entre Israéliens et Palestiniens. Ismail Haniyeh a déclaré que la seule solution était que le régime israélien quitte les terres palestiniennes, y compris Quds occupées. Haniyeh a déclaré que la méthode israélienne de tuerie et de destruction ne fonctionnerait jamais avec le peuple palestinien. Sachez d'autre part qu'un mouvement antiterroriste irakien dénonce le projet américain visant à maintenir une présence militaire dans ce pays arabe et appelle à la fin de cette mission trompeuse. Le secrétaire général du mouvement Asaïb al-Haq, un mouvement antiterroriste en Irak, a déclaré que l'objectif principal de la présence militaire américaine en Irak était d'assurer la sécurité du régime israélien. Les États-Unis maintiennent toujours 2500 soldats en Irak sous prétexte d'aider les forces locales à combattre le groupe terroriste Daesh. Enfin, la défense aérienne russe a abattu 3 drones ukrainiens à Moscou et dans sa région, visés par une 6e journée consécutive d'attaques, a affirmé la Russie tôt mercredi 23 août. Un drone a été neutralisé par des moyens de guerre électronique et ayant perdu le contrôle, il est entré en collision avec un bâtiment en construction dans le complexe de Moscou City, sans faire de victime, a indiqué le ministère russe de la Défense, accusant Kiev d'être à l'origine de l'attaque. Fin de ce journal, merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. Iran, économie nucléaire, les demandes pour acheter de l'eau lourde se multiplient. L'eau lourde est la deuxième matière nucléaire stratégique après l'uranium dans le monde et l'Iran est l'un des 5 pays qui produit ce composé d'une grande pureté que de nombreux pays cherchent à acheter malgré les sanctions. En vertu de l'accord nucléaire de 2015, l'Iran est autorisé à utiliser de l'eau lourde dans son réacteur nucléaire modifié d'Arak, mais doit vendre tout excédent d'eau lourde d'uranium enrichi sur le marché international. L'accord prévoit que les stocks d'eau lourde ne dépassent pas 130 tonnes, mais le retrait des États-Unis de l'accord en 2018 a permis à l'Iran d'augmenter sa production et de voir ses stocks s'arracher sur le marché. Lors d'une visite vendredi 18 août de l'usine de production d'eau lourde à Kondab, près d'Arak, le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique, OIOA, Mohammad Eslami, a déclaré aux journalistes que de nombreux clients cherchent à se procurer de l'eau lourde d'Iran, qui investit désormais dans les dérivés de l'eau lourde. Nos clients ont remarqué la haute qualité et la pureté de l'eau lourde iranienne, s'est-il félicité. Les dérivés de l'eau lourde sont très chers et nous finalisons nos investissements dans cette chaîne à haute valeur ajoutée. Les États-Unis s'étaient engagés à acheter 32 tonnes d'eau lourde iranienne pour leur réacteur nucléaire, mais ils ont annulé leur décision après que l'ancien président Donald Trump a unilatéralement abrogé l'accord nucléaire. Après des années de soubresauts, l'industrie nucléaire iranienne arrive à maturité après avoir résisté aux inspections internationales les plus intrusives jamais réalisées au monde, qui ont freiné son progrès sans jamais parvenir à l'arrêter. Selon le président de l'OIOA, l'industrie nucléaire est l'une des industries à plus forte valeur ajoutée au monde. Nous avions négligé ce sujet important, mais nous souhaitons accorder une attention particulière à l'économie nucléaire, a-t-il réaffirmé. Le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a appelé en juin les responsables à prendre les mesures nécessaires pour commercialiser les produits et services nucléaires. Les produits et services nucléaires iraniens doivent être commercialisés. Nos produits sont très demandés sur les marchés internationaux et ils peuvent renflouer nos caisses. Il devrait y avoir une coopération avec les pays alliés, a-t-il préconisé. Depuis 2021, l'Iran a enregistré 159 trouvailles scientifiques dans les domaines du combustible nucléaire, de l'énergie, du laser, du plasma, des rayonnements, de l'environnement ainsi que de l'eau et du sol. Plus tôt ce mois-ci, l'Iran a dévoilé une mine d'uranium dans la région de Khoi, au nord-ouest du pays, que le président de l'OIOA a présenté comme une plaque tournante pour la production des matières premières nécessaires à la production d'énergie nucléaire. L'eau lourde, également connue sous le nom d'oxyde de deutérium, est un composé d'oxygène et de deutérium qui est en isotope plus lourd de l'hydrogène. L'eau lourde produite à Kondab est utilisée dans divers domaines, notamment la biologie, la médecine, la physique, l'industrie, l'agriculture, le pétrole et le gaz, mais son implication la plus importante concerne les centrales nucléaires comme liquide de refroidissement et la production des radiopharmaceutiques. L'usine de production d'eau lourde est l'une des plus grandes installations nucléaires d'Iran. Sa construction a débuté en 1988, près du village de Kondab. Toutes les étapes de conception et de fabrication ont été menées par des ingénieurs iraniens. Deux unités du complexe, capables chacune de produire 8 tonnes d'eau lourde par an, sont entrées en service en 2006, mais la capacité globale est passée à 20 tonnes en 2013. Actuellement, l'Iran est capable de produire plus de 100 tonnes d'eau lourde d'une grande pureté, un exploit qu'aucun pays n'a jamais pu réaliser, selon les responsables de l'usine. Les autres produits de la plante comprennent des composés isotopiques, des solvants de terre et l'isotope stable de l'oxygène 18, avec une richesse de 97%. L'Iran est l'un des principaux producteurs d'oxygène 18 qui est récemment devenu largement utilisé, notamment dans les pays développés. Plusieurs pays européens et asiatiques importants s'approvisionnent actuellement en produits et en d'autres composés de terre en Iran. Les biomolécules marquées au fluor 18 font partie des autres produits de l'usine d'eau lourde de Kondab, utilisés dans le diagnostic des anomalies métabolique chez les nouveaux-nés et le dépistage néonatal. Au total, quelque 300 dérivés d'eau lourde et de déthérium sont produits dans le complexe qui sont commercialement compétitifs avec ceux des principaux producteurs et les dépassent même parfois. L'Iran fait également bonne figure en matière d'efficacité de production et de qualité de son eau lourde, à tel point que les pays du monde ne sont pas disposés à y renoncer ou à ignorer malgré des sanctions étendues et sans précédent. Néanmoins, le profit financier n'est pas l'objectif premier des responsables des eaux lourdes de Kondab. Ils essaient plutôt de se tester sur le marché pour voir si l'ensemble de la chaîne fonctionne correctement. Mespar Energy Co., fondée en 1998, s'est bâti une réputation parmi les 5 sociétés leaders au monde dans la production d'isotopes stables, des solvants et de composés déterrés. La Russie, l'Inde et certains membres de l'Union européenne avaient demandé à Mespar Energy iranien d'ouvrir des bureaux de représentation sur leur territoire.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver pour un nouveau débat du jour en ce lundi 21 août 2023. Nous allons nous intéresser tout de suite aux dernières évolutions irano-américaines dans la région avec nos deux experts qui nous rejoignent depuis Paris et depuis l'Alsace. On va s'intéresser à la sécurité du Golfe Persique qui est à l'ordre du jour de l'Iran. Tout de suite, après un point en image, restez avec nous. On se retrouve tout de suite après.
Selon le commandant de la marine du corps des gardiens de la révolution islamique, l'US Navy ne respectait pas à une certaine période les règles relatives aux voies navigables au sud de l'Iran. Mais aujourd'hui, il se voit dans l'obligation de prendre en compte les avertissements de la marine du CGRI. Lors de la 24e Assemblée suprême des commandants et officiels du CGRI, le contre-amiral Tang Siri a insisté sur la capacité militaire des forces armées du CGRI à atteindre l'autosuffisance en équipement de défense. L'une des directives du leader de la révolution islamique était d'avoir une marine digne de notre révolution, et cela n'était possible qu'en dominant les eaux du golfe Persique. Nous l'avons fait et aujourd'hui, nous dominons cette région stratégique. Même les porte-avions et les hélicoptères de l'armée américaine se soumettent aujourd'hui à notre droit maritime lorsqu'ils traversent le golfe Persique, a-t-il indiqué. À une certaine époque, les pays de l'OTAN faisaient peu de cas aux règles relatives à la navigation dans nos voies navigables. Mais aujourd'hui, ces pays sont obligés de tenir compte de nos coûts de semences pour pouvoir naviguer dans le golfe Persique. Par exemple, des vedettes du CGRI se sont une fois dirigées vers un porte-avions américain. Celui-ci s'est éloigné pour se stationner à 290 km de la zone où se trouvaient les vedettes. En ce qui concerne les percées militaires de la marine du CGRI en matière de défense et de missiles, le contre-amiral Tang Siri a déclaré « Aujourd'hui, la marine du CGRI dispose de toutes sortes de drones de combat, de reconnaissance, offensifs et hybrides, ainsi que d'un bon nombre de missiles côte-mer. »
Retour au plateau de Presse TV qui se diffuse depuis Téhéran. Pour entrer dans le sujet, j'ai le plaisir de recevoir par Skype Madame Rouni, expert franco-tunisien en géopolitique basée à Paris, également Maître André Chamy, sociologue et avocat français depuis l'Alsace. Merci et merci d'avoir accepté notre invitation. À vous, Maître André Chamy, on commence par vous. Quelle est la raison de l'assistance de l'Iran à assurer la sécurité de la région, la sécurité des voies navigables et de la navigation dans la région par les pays de la région eux-mêmes?
La question est une question de souveraineté d'abord, parce qu'à partir du moment où vous disposez d'un droit sur une zone maritime ou terrestre ou aérienne, évidemment, il vous appartient d'en assurer la protection. Et si pendant un certain nombre d'années, si je vous m'exprime ainsi, ces points navigables étaient laissés à la presque au diktat des pays qui traversaient ces zones-là, c'est-à-dire en fonction de leur puissance, en fonction des moyens qu'ils déploient, c'était tout simplement une question de moyens, parce que pour déployer ce genre de choses, il faut que vous ayez une puissance maritime. Et les pays de cette zone, que l'on soit dans le golfe Persique, que l'on soit dans la mer Rouge, parce que ce sont des voies très importantes sur le plan géopolitique, évidemment, il vous faut un déploiement de moyens, et ce déploiement de moyens nécessite soit un achat d'armement auprès des pays qui en fabriquent, soit que vous puissiez développer votre capacité militaire. Et depuis des décennies, ce n'est pas d'hier, la République islamique d'Iran a voulu développer ses moyens parce que, justement, les États-Unis faisaient, en quelque sorte, ce qu'ils avaient envie de faire, en tout cas, ils croyaient pouvoir faire ce qu'ils avaient envie de faire dans cette zone-là, comme ils le faisaient depuis de longues années. Et la décision politique a été prise au sein de la République islamique d'Iran dans sa branche militaire et dans sa branche politique, comme quoi il fallait reprendre la maîtrise de cette zone, parce que à partir du moment où je suis titulaire d'un droit légal au vu des textes internationaux sur cette zone-là, bah, il faut que je mette les moyens nécessaires. Et effectivement, ces moyens nécessaires ont été augmentés au fur et à mesure que la puissance militaire de l'Iran augmente, mais également des recherches et des développements militaires augmentaient. Et évidemment, à partir du moment où vous disposez maintenant des moyens nécessaires, et bien vous les mettez en place pour faire respecter vos droits, parce que le respect du droit nécessite systématiquement l'emploi d'une dissuasion. C'est comme si vous aviez une maison. Pour protéger votre maison, il vous faut une police autour de vous, parce que sinon les voleurs rentreraient à tout moment. Et il se trouve que les voleurs qui se trouvent autour de vous, ou ceux qui sont susceptibles de représenter une menace, ce sont des États et pas les moindres. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes obligé à ce moment-là, puisque vous n'avez pas de police à mettre en place, et ben vous utilisez vos propres moyens, ce que l'Iran a fait depuis un certain temps. Et aujourd'hui, on peut dire que l'Iran a atteint le seuil de l'autosuffisance pour se protéger et pour assurer le respect de son droit issu des textes internationaux et de son droit maritime. Et cela ne pouvait se faire qu'à travers, comme je le disais, le développement de ses moyens militaires, c'est-à-dire une capacité militaire et notamment de déploiement de bateaux très rapides ou en tout cas ultra rapides qui permettent d'intercepter des engins militaires quelle que soit leur puissance et les obliger à prendre les voies qui sont fixées par les autorités maritimes iraniennes parce que sinon évidemment ils ont tendance à utiliser leurs moyens militaires, c'est-à-dire que les porte-avions fasse décoller les avions à un moment bien déterminé pour dire eh ben évidemment nous on continue mais sauf que nos avions sont en l'air et pareil pour les porte-hélicoptères, bah, les Américains s'amusaient en quelque sorte à sortir les hélicoptères au mauvais moment, c'est-à-dire comme ça les hélicoptères survolaient cette zone maritime parce que le droit maritime est moins large que le droit aérien. Et évidemment, pour restreindre ce droit-là, l'Iran oblige à ce moment-là les engins maritimes, que ce soit des porte-avions ou des porte-hélicoptères, à reprendre leurs engins qui sont déployés à l'extérieur avant d'emprunter ces voies maritimes. Sinon, ils sont interdits d'emprunter cette voie parce que l'exercice de ce droit maritime doit se faire à travers deux règles, je dirais, essentielles, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de volonté de déstabiliser la sécurité dans ce pays-là et que vous ne constituez pas une menace militaire pour le pays que vous traversez. Et si vous deviez respecter la sécurité et l'absence de menace militaire, et bien vous devez donc faire rentrer vos canons, faire rentrer vos missiles, ne pas les mettre en situation ou en position de capacité de porter atteinte au territoire iranien en traversant cette voie-là, mais également que les moyens que vous déployez, c'est-à-dire vos drones, vos hélicoptères ou vos avions, ne puissent pas constituer une menace pour la sécurité à travers les moyens déployés, c'est-à-dire la surveillance, mais en même temps l'espionnage et tout le reste. C'est la raison pour laquelle même les derniers temps, même les sous-marins ont été obligés à faire surface, parce que justement, les moyens déployés par ces sous-marins pouvaient constituer une menace d'espionnage, ce que les Iraniens ont refusé d'admettre, et à juste titre, parce que c'était le respect pur et simple de leur droit maritime dans cette zone-là, et les Américains, et même les autres Occidentaux, et les Français en particulier, et les Anglais également, ont dû obtempérer parce qu'ils avaient compris que soit c'est la confrontation qui est recherchée à ce moment-là, il fallait accepter de se faire coincer, si j'ose dire, par la force maritime iranienne, soit c'est l'apaisement, et à ce moment-là, ils repliaient entre guillemets bagages et ils passaient sans faire d'esclandre, si je m'exprime ainsi, et à ce moment-là, évidemment, ils passaient avec la tête baissée, avec les canons, missiles et tout le reste baissé, pour que justement que ce ne soit pas considéré comme constitutif de menace pour la sécurité et pour le risque d'attenter pas seulement à la sécurité pure, mais également que ce ne soit pas considéré comme une menace militaire, c'est-à-dire que ça puisse considérer comme une sorte d'atteinte à l'intégrité territoriale iranienne.
Merci beaucoup pour ces éclairages, André Chami. À vous, Emadaddin Amrouni, géopoliticien, bienvenue à vous sur notre plateau. Je vous laisse réagir et dites-nous également, est-ce que la sécurité de l'Iran et celle des pays de la région est indissociable?
Bon, bonjour à vous et à votre invité, Maître Chami, à tous les spectateurs. Vous savez, ce n'est pas la première fois que le corps des gardiens de la révolution islamique iranien montre sa vigilance, sa présence et sa force vis-à-vis de toute force étrangère et surtout américaine. Et il faut noter deux choses. L'importance du détroit d'Hormuz, c'est l'un des détroits les plus importants dans le monde. Il y en a 4 ou 5. Il y a 20%, presque entre 20 et 30% du pétrole du monde passe par le détroit d'Hormuz. Il y a presque 60% des besoins de la Chine viennent de cette région-là. Si vous voulez, le combat, il est entre Américains et Chinois. Et il se trouve qu'aujourd'hui, la République islamique d'Iran comme force importante régionale face aux États-Unis. Il faut rappeler que les États-Unis, c'est la force la plus importante maritime dans le monde, avec les Anglais et les Français. Et donc, on est dans une guerre d'information, une guerre technologique, mais aussi une guerre économique et énergétique. Donc, si vous voulez, la force maritime iranienne, elle s'est bien déployée. On le trouve aujourd'hui dans la mer Rouge, dans l'océan Atlantique, dans l'océan Indien. Donc la progression de la force maritime iranienne dérange les États-Unis, dérange donc l'OTAN, et ils viennent de temps en temps tester cette force, tester la décision politique, comme Maître Chami l'a bien précisé, parce qu'il faut avoir un courage politique pour affronter les États-Unis. Donc, en même temps, les Américains négocient indirectement avec les Iraniens, mais pendant la négociation, donc, il y a des escarmouches militaires, que ce soit par la voie maritime, mais aussi par des opérations de renseignement et par des opérations, des attentats à l'intérieur même de l'Iran. Donc, on est vraiment dans le conflit global et le conflit régional. Aujourd'hui, on voit que les Américains se retirent plus ou moins ou se repositionnent leur force militaire dans le monde, mais surtout dans l'Asie orientale, quoi. Et d'autre côté, les Russes sont bloqués par la guerre en Ukraine, les Chinois par le problématique à Taïwan et la mer du sud de la Chine. Donc la force majeure aujourd'hui dans cette région, c'est l'Iran. Et donc l'Iran aujourd'hui a la plus de moyens de pression diplomatique, politique, mais aussi militaire, de prouver qu'ils sont capables de garantir la sécurité de la région, surtout vis-à-vis de leurs partenaires russes et chinois, mais surtout avec leurs voisins arabes, l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Donc, si vous voulez, le chantage américain, la manière américaine est toujours la même, c'est-à-dire c'est le cow-boy qui arrive avec sa force militaire et qu'il est là même pour aller en avant, voir comment va réagir l'ennemi. Et bien, si l'ennemi ne réagit pas militairement, bon, les Américains vont marquer des points sur la table de la négociation. Parce que les deux sont les mêmes, c'est-à-dire la table de négociation à Oman ou à Doha, au Qatar ou en Irak, on négocie aussi, mais militairement, en détroit d'Hormuz. Donc, il y a, si vous voulez, un dialogue militaire et un dialogue diplomatique entre l'Iran et les États-Unis.
Merci beaucoup, Emadeddin Arbouni. À vous, Mir Chami. Quelle est l'importance du Golfe Persique et de la région stratégique du Golfe Persique, d'après vous, dans la politique étrangère des États-Unis?
Ce n'est pas que de la politique étrangère. En tout état de cause, il y a une question qui est posée depuis quelques décennies, c'est de savoir qui maîtrise non seulement les sources de tout ce qu'on appelle hydrocarbures ou en tout cas gaz, pétrole et les sources d'approvisionnement, mais également les voies maritimes. Et les voies maritimes sont relativement limitées, c'est-à-dire quand vous voulez transporter du pétrole ou du gaz de tel pays du Golfe, vous devez indiscutablement avoir la maîtrise. La maîtrise se fait par la force militaire, c'est-à-dire vous devez être en mesure d'accompagner vos moyens d'approvisionnement. Et si vous n'arrivez pas à avoir les moyens pour accompagner vos sources d'approvisionnement, vous risqueriez deux choses. Soit que les interceptions par tel ou tel État se fassent, ou bien par la piraterie. Et nous avons constaté un certain nombre d'actes de piraterie dans la même zone. Mais il y a également, il y a cette partie-là, mais il y a également, si j'ose dire, la voie parallèle qui se trouve dans la mer Rouge. La mer Rouge constitue également une zone de tension. C'est la raison pour laquelle on voit les tensions augmenter au Soudan. La prise de position militaire à Djibouti, les Chinois qui s'installent au même titre que d'autres pays comme les États-Unis, la France, etc. Mais vous avez également, il ne faut pas le négliger, les positions par rapport au Yémen ne sont pas étrangères à ce qui se passe dans cette zone-là, encore une fois, pour assurer la sécurité, parce que si vous donnez une position supplémentaire à l'Iran, parce qu'en réalité, dans la lecture géostratégique de cette zone-là, on se dit que si Ansarallah gagnait la guerre contre l'Arabie saoudite, c'est-à-dire c'est l'Iran qui gagne également cette guerre, et à ce moment-là, il y a un positionnement géostratégique qui se fait du côté de l'Iran pour maîtriser également cette voie maritime et qui permettrait au Yémen, ou en tout cas aux Iraniens, d'avoir le contrôle de cette zone-là, parce qu'il suffit qu'il y ait une convention ou un traité international entre le Yémen et l'Iran pour demander aide militaire et assistance pour maîtriser cette voie. Et le Yémen se trouve également à la pointe de cette zone-là. Et bien, évidemment, l'Iran aurait marqué des points sur le géopolitique de cette zone-là. Ce qui ne plaît pas, évidemment, aux Américains et aux Occidentaux, et je dirais même à l'OTAN en général. C'est la raison pour laquelle il y a cette guerre larvée entre les deux belligérants, les États-Unis et ses alliés, et l'Iran, qui est obligé également d'avoir des alliés, mais l'Iran a toujours choisi l'autosuffisance, c'est-à-dire avant d'aller chercher des alliés chez les Russes ou chez les Chinois, l'Iran a toujours opté pour améliorer ses propres capacités, pour ne pas dire les rendre suffisantes pour faire face à tout danger, parce que les alliés d'aujourd'hui pourraient ne pas être des alliés de demain. En tout cas, on peut avoir des intérêts qui ne sont pas identiques, c'est-à-dire chacun va tirer de son côté. L'Iran a toujours prévu cette question-là et a toujours eu comme ambition de devenir une véritable puissance autosuffisante dans ses capacités, mais également dans ses alliances, c'est-à-dire l'Iran ne se contente pas de ses alliances avec la Russie et avec la Chine, mais cherche également d'autres alliances et cherche l'apaisement avec ses voisins de la région. Et les démarches vis-à-vis de l'Arabie Saoudite et vis-à-vis des autres pays du Golfe en disant « nous sommes des partenaires, nous ne sommes pas dans la position d'être en tension, en tout cas en guerre », l'apaisement dans cette zone-là permettrait également d'améliorer la situation géopolitique de l'Iran et permettrait d'avoir une sorte de partenariat, c'est-à-dire nous n'avons pas besoin d'autres pays pour assurer cette zone, nous avons besoin de nos puissances, quitte à ce qu'il y ait un ou deux bateaux émiratis ou saoudiens qui participent à la protection de la zone, mais ça permettrait une implication beaucoup plus fondamentale et bien entendu que la sécurité soit garantie par la zone entière, comme cela se fait d'ailleurs dans d'autres zones, notamment dans la mer Caspienne, puisqu'il y a eu un accord entre les pays de cette zone-là d'interdire à d'autres puissances maritimes de passer par cette zone-là. Et aujourd'hui, cette protection de cette zone maritime est assurée uniquement par les pays de la région. Et ça, c'est un plus, encore une fois, pour l'Iran, mais pour les autres pays, même si j'ai quelques doutes par rapport, par exemple, à l'Azerbaïdjan, qui n'est pas très loyal, si je veux dire, dans son implication. Mais nous verrons par la suite si le régime Aliyev va rester en place ou bien il y aura quand même des changements géopolitiques dans cette zone-là qui ne sera pas, à mon sens, à l'abri des changements politiques dans les prochaines années.
Merci André Chami pour vos éléments de réponse. À vous, Emadeddine Amrouni. Une nouvelle alliance stratégique se profile entre l'Iran et les pays de la région, dont et notamment l'Iran et l'Arabie Saoudite. À votre avis, est-ce que cela signifie que les pays du Golfe Persique se méfient des États-Unis ou bien ont confiance de plus en plus en Iran?
En fait, l'Iran, elle est plus forte aujourd'hui, elle a montré, que ce soit au niveau géopolitique, mais surtout au niveau militaire, et qu'elle est fidèle à ses amis, que ce soit en Irak, en Syrie et au Yémen, et même avec les Russes. Et donc, ce changement, si vous voulez, de rapport de force dans la région a fait que l'Iran, aujourd'hui, c'est la force majeure de la région, et même les Américains reconnaissent cette force. Mais ils veulent avoir des négociations. Les Iraniens veulent gagnant-gagnant, mais les Américains n'accepteront jamais d'avoir un accord gagnant-gagnant avec les Iraniens. Par contre, les pays arabes, comme l'Arabie Saoudite, par exemple, ils ont compris que le monde change, que les rapports de force changent. Surtout, on voit la montée de la Chine au niveau économique et même au niveau financier. Dans quelques jours, il y a la réunion importante du BRICS en Afrique du Sud. Et l'Arabie Saoudite veut être membre de la BRICS, comme l'Iran, comme l'Algérie, comme l'Argentine, comme bien d'autres pays. Donc le monde change au niveau des blocs. Et le bloc arabe, donc l'ambition, si vous voulez, de l'héritier du trône Mohammed bin Salman en Arabie Saoudite, c'est de créer une union arabe à l'image de l'Union européenne et de créer même la monnaie unique arabe. Ça, c'est bon, c'est le rêve de Mohammed bin Salman. Les Iraniens, ils disent aux Saoudiens, oui, d'accord, la sécurité, elle sera pour tout le monde, pas pour vous seulement. Le développement économique sera pour tout le monde, pas pour vous seulement. Si vous voulez un développement économique et une sécurité politique, eh ben, il faut qu'on trouve un accord. Et les Iraniens, ils ont les moyens de mettre en place, si vous voulez, un bloc du Golfe Persique composé du monde arabe, c'est-à-dire les pays arabes du Golfe Persique, l'Iran et peut-être même le Pakistan et la Turquie. Donc l'Iran cherche à mettre en place cette forme d'alliance islamique, entre parenthèses, face au bloc sioniste américain. Donc c'est une guerre, si vous voulez, que les Iraniens mènent depuis 4 décennies maintenant, hein, c'est pas aujourd'hui. Et cette guerre, c'est une guerre contre la force majeure dans le monde, c'est-à-dire les Américains. Les Américains, ils prennent conscience que cette force iranienne, aujourd'hui, elle est plus libre politiquement, elle a les moyens technologiques et militaires d'affronter l'entité sioniste et même au-delà. Donc les Américains cherchent à négocier et ils vont négocier. On voit que, par exemple, l'accord indirect sur la libération de certains détenus américains en Iran, l'argent des Iraniens qui se trouvent en Corée du Sud, qui part dans certains banques en Chine ou en Qatar, par exemple. Donc les négociations vont se poursuivre. Peut-être les Américains veulent faire pression politique, merci pression militaire, parler des négociations directes. Les Iraniens aussi. Donc les Iraniens mènent la même politique, c'est-à-dire ils ont les moyens de mettre en place des pressions diplomatiques en Irak, en Syrie et aussi sur le dossier yéménite, mais aussi militaire. C'est-à-dire les Iraniens disent on a la capacité militaire d'intervenir, que ce soit au niveau maritime ou que ce soit au niveau merci. Terrestre, en Irak, en Afghanistan, au Pakistan et même au-delà. Donc c'est une guerre qui continue entre les Iraniens et les Américains, mais parfois c'est une guerre militaire indirecte, parfois c'est une guerre économique et financière.
Merci beaucoup, Emma Dedine Amrouni, également à vous, Maître André Chami, pour avoir accepté notre invitation. Ici prend fin notre débat du jour. Merci de votre attention et au revoir à tous.
Très chers amis auditeurs, bienvenue au programme portant sur l'actualité de l'Asie de l'Ouest. Restez avec nous jusqu'à la fin de ce programme. L'industrie de la défense iranienne dévoile le drone Mohajer 10 et la bombe plantante Arman 1 lors d'une cérémonie mardi 22 août en présence du président de la République islamique, le ministre de la Défense et un groupe des commandants des forces armées iraniennes. Le drone Mohajer 10, capable d'effectuer 24 heures de vol continu à une altitude de 24 000 pieds et un rayon d'action de 2 km, a été dévoilé en présence du président iranien, Ebrahim Raisi, qui a visité l'exposition des derniers acquis de l'industrie de la défense. Mohajer 10 a une portée de vol de 2000 km et sa capacité maximale de carburant est de 450 litres, tandis que sa charge est de 300 kg. La vitesse maximale du drone est de 210 km par heure. Il est en outre capable de transporter toutes sortes de munitions et de bombes, étant équipé de systèmes de guerre électronique et de renseignement. La bombe guidée Arman 1 a été également dévoilée lors de cette cérémonie. C'est une bombe plantante guidée fabriquée par l'industrie de la défense iranienne. Les bombes Yassin et Balaban sont d'autres bombes plantantes utilisées sur des chasseurs et des drones. Le président iranien Ebrahim Raisi a salué les capacités militaires croissantes de l'Iran et sa technologie de défense de pointe, affirmant que la République islamique favorise l'interaction avec d'autres pays, mais qu'elle coupera les mains à ceux qui complotent pour commettre un acte d'agression contre la nation iranienne. Il a fait ses remarques lors d'une réunion mardi 22 août avec de hauts responsables du ministère iranien de la Défense et des Forces armées, à l'occasion de la journée de l'industrie de la défense nationale. Le chef de l'exécutif a salué la présence des forces armées iraniennes dans la région comme un point d'ancrage de la sécurité, par opposition à la présence menaçante de forces étrangères. affirmant que les industries de défense du pays soutiennent les forces armées pour assurer et promouvoir la sécurité, l'autorité et le pouvoir de dissuasion de la République islamique. Il a déclaré que la République islamique d'Iran vise à interagir avec les pays du monde entier. Nous serrons chaleureusement la main de tous ceux qui nous tendent la main pour la coopération et l'amitié. Mais nos puissantes forces armées couperont les mains de ceux qui cherchent à mener à bien une action d'agression contre l'Iran. Le président iranien a également souligné la nécessité de protéger les acquis du pays dans le domaine de l'industrie de défense et de faire face aux actes de sédition et d'infiltration de l'ennemi pour entraver sa progression. L'Iran a mis en garde contre le renforcement de la présence provocatrice des forces américaines dans le golfe Persique, avertissant que cette décision intervient à un moment où les pays de la région semblent vouloir améliorer leurs relations. S'exprimant lors de son point de presse hebdomadaire à Téhéran, lundi 21 août, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a affirmé que les intérêts de certains gouvernements résident dans l'instabilité de la région du golfe Persique. Kanani a affirmé que la sécurité de la région, en particulier celle de la voie navigable du golfe Persique, doit être assurée par les États mêmes de cette région. C'est un principe général, a-t-il dit, notant que l'Iran a accéléré les pourparlers dans ce sens. Il a en outre évoqué l'importance cruciale de la région du golfe Persique et du détroit d'Ormuz pour la sécurité de l'Iran et a souligné que la marine iranienne fournirait une réponse professionnelle et légale à tout geste illégal dans la région. Ces dernières semaines, les États-Unis ont envoyé des chasseurs F-35 et F-16 ainsi que des navires de guerre et 3000 fusils marins dans le golfe Persique sous prétexte de riposter à ce qu'ils appellent les harcèlements et saisies de navires marchands par l'Iran. Des fonds iraniens bloqués en Corée du Sud ont été transférés la semaine dernière à la Banque nationale suisse avant leur transfert vers l'Iran, selon les médias sud-coréens. Selon une source anonyme du marché des devises, la Banque nationale suisse envisage d'échanger ses 6 milliards de dollars en won contre des dollars puis des euros sur le marché des devises. Les fonds iraniens ont été illégalement bloqués en Corée du Sud sous prétexte des sanctions américaines. Les États-Unis, sous l'ancien président Donald Trump, ont abandonné l'accord nucléaire de Vienne en mai 2018 et ont rétabli les sanctions que l'accord avait levées. Récemment, l'Iran et les États-Unis sont parvenus à un accord qui comprend un échange de prisonniers ainsi que le dégel des avoirs iraniens illégalement bloqués à l'étranger. Le gouverneur de la Banque centrale d'Iran, Mohammad Reza Farzin, a annoncé que les fonds iraniens seront déposés sur des comptes détenus par des banques iraniennes au Qatar. Une source de sécurité irakienne a annoncé que les forces de mobilisation populaire Hashd al-Shaabi ont été largement déployées dans l'est de la province d'Al-Anbar et la bande frontalière avec la Syrie afin d'empêcher les terroristes Daesh de s'infiltrer en Irak en cas d'opération américaine en Syrie. Dernièrement, les forces américaines ont entrepris des actions plus que douteuses en déplaçant des éléments terroristes Daesh et en déployant du matériel militaire lourd aux frontières entre l'Irak et la Syrie. Ces mesures font partie de la stratégie des commandants des forces de mobilisation populaire pour réduire au minimum les failles de sécurité aux frontières de l'Irak avec la Syrie et empêcher l'infiltration d'éléments terroristes de Daesh en cas d'attaques américaines depuis le point de passage d'Al-Raim al-Anbar vers la Syrie. Les forces américaines ont récemment transféré des terroristes Daesh dans deux zones en plusieurs États. Selon des sources bien informées, les militaires américains ont stationné 150 terroristes Daesh dans ces régions. Ces dernières semaines, les Américains ont également pris des mesures qui montrent qu'ils cherchent à prolonger la présence de leurs troupes. Selon les experts, les États-Unis commenceront par contrôler la ville de Boukamal afin de fermer en grande partie les frontières de la Syrie avec l'Irak et d'occuper les frontières de l'Irak.
parallèlement, ils font de leur mieux pour démanteler l'organisation de mobilisation populaire Hashd al-Shaabi, ou du moins la désarmer. Les défenses aériennes syriennes ont été activées après que des avions de chasse israéliens ont frappé des sites près de Damas dans la nuit de lundi à mardi, selon les médias syriens. De nombreuses explosions ont été entendues dans la capitale. L'attaque a été menée lundi soir, 21 août, en provenance des hauteurs du Golan occupé, a rapporté l'agence de presse officielle syrienne Sana. Les projectiles ont blessé un militaire et causé des dégâts matériels. Les hauteurs du Golan sont sous occupation israélienne depuis 1967, lorsque le régime a lancé une guerre à grande échelle contre les États arabes de la région, dont la Syrie. Depuis, Tel Aviv utilise ce territoire comme rampe de lancement pour ses agressions militaires contre la nation arabe. Les attaques se sont intensifiées après 2011, lorsque la Syrie s'est retrouvée aux prises avec un terrorisme généralisé soutenu par l'étranger. Le régime israélien utilise également le territoire occupé pour assurer un passage sûr et des soins médicaux aux terroristes takfiristes qui fuiraient les opérations antiterroristes de l'armée syrienne.
Aquí Teherán, la voz de la República.